Est-ce que je peux voir votre Bible? Quelqu'un peut dire avec moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Dès que je les reçois dans mon cœur, qui est une terre fertile, je produirai des témoignages qui étonneront les gens autour de moi. Les gens me célébreront à cause des résultats de la parole dans ma vie. Je le crois, ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus, de qui vient le plus grand amen, qu'il reçoit la plus grande bénédiction. Évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 17. Mais je commence au verset 14, juste pour compléter l'idée ou situer les textes. Mais sinon, c'est le verset 17 qui me concerne ce matin. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. La Bible dit qu'elle a habité parmi nous, mais elle était pleine de grâce et de vie. Donc cette parole était constituée. Si vous dépiécez cette parole comme dans votre corps, vous trouverez beaucoup de choses qui composent votre corps. Mais lorsque vous essayez de décomposer la parole qui est devenue chair, elle est pleine de grâce et de vérité. En vous, on trouve la peau, la chair, les sangs, les os, le muscle. Mais cette parole qui est devenue chair, lorsque vous la dépiécez, vous ne trouvez que la grâce et la vérité. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc, cela veut dire constituée de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, c'est-à-dire le Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous, ça c'est Jean qui dit, et les apôtres, et nous, nous avons tous reçu de sa plénitude. Sa plénitude est faite de quoi? Nous l'avons lu au verset 14. Sa plénitude est faite de quoi? De grâce et de vérité. Quelqu'un comprend? Lisez les deux versets. La parole est, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, Jean dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, de ce qui faisait sa plénitude. C'est la grâce et la vérité qui faisaient sa plénitude. Et nous avons tous reçu donc de sa plénitude qui est constituée de grâce et de vérité, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui me donne un grand amen. Ce matin, je reviens et je parle de l'ordre de Melchisédek. Ce texte, le verset 17, parle de deux alliances. L'hymne du mont Sinaï, l'ancienne alliance, un contrat entre Dieu et le peuple d'Israël, la descendance charnelle d'Abraham par Isaac, bien sûr, et Jacob. La deuxième alliance, c'est celle du mont Calvaire, Jésus, avec tout le peuple de la terre qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais ce texte parle également de médiateur des deux alliances. Moïse, qui a été l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, parce que sur la montagne de Sinaï, il y a eu des tonnerres, il y a eu des tremblements, des cris, des éclairs, et le peuple ne pouvait pas supporter. Les spectacles étaient horrifiants, remplis de terreur. Et le peuple a dit que Dieu ne nous parle pas directement, qu'il te parle toi, Moïse, et toi, à ton tour, tu nous transmettras. C'est comme ça que Dieu demande à Moïse de monter plus loin, et que le peuple ne s'approche même pas de la montagne, et Dieu va écrire de son doigt la loi qu'il va donner à Moïse. C'est donc lui l'intermédiaire de cette alliance entre Dieu et le peuple. Et de l'autre côté, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, à la croix du calvaire, parce que Dieu n'était pas satisfait des holocaustes, des sacrifices qu'on faisait pour le péché et toutes sortes d'offrandes, il a dit, qui enverrai-je? Christ a dit, mais voici. Et il lui a formé un corps. Il est venu Et il a offert le sacrifice suprême à la croix du calvaire, enfin, de réconcilier les hommes avec Dieu. Ce texte parle des sacerdoces. Les sacerdoces de l'ancienne alliance, selon l'ordre d'Aaron, où ses fils et lui-même entraient dans un tabernacle fait de mains d'hommes, avec les ustensiles qui étaient des photocopies, ou l'ombre, comme dit la Bible, des choses réelles, afin d'offrir à Dieu des sacrifices, le sang des taureaux et des boucs, qui ne pouvaient pourtant pas ôter les péchés, mais juste couvrir pendant un temps. Mais ce texte parle aussi d'un autre sacerdoce meilleur, selon l'ordre de Melchisédek, où Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Lui n'a pas officié dans un tabernacle fait de mains d'hommes, mais il est entré dans le véritable tabernacle, les cieux même, qu'il a traversé. Il n'a pas apporté le sang de taureau ou de bouc, mais il a apporté son propre sang en sacrifice devant le trône de miséricorde, de grâce de Dieu le Père. Dieu a agréé ce sacrifice. Aaron, lui, après avoir offert le péché d'expiation au jour des expiations, le sacrifice plutôt, il est ressorti. Mais Jésus est entré et il s'est assis pour toujours comme ministre du véritable sanctuaire, afin de plaider à notre faveur. Et en fin de compte, ces textes, ce sont des sous-éléments que je tirais. Et quelqu'un va dire, où est-ce que David a pris tout ça? Parce que la Bible ne dit que, ne parle que de Moïse, par qui la loi a été donnée, et Jésus-Christ, par qui est venue la grâce. Et où est-ce qu'il a pris tous ces éléments? Parce qu'en réalité, ces textes parlent d'une part de la loi, d'autre part de la grâce. Et lorsqu'on parle de la loi, c'est ça l'ancienne alliance, c'est ça les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, c'est ça les tabernacles de Moïse. Et lorsqu'on parle de la grâce, c'est cela l'ordre de Melchisédek, c'est les tabernacles éternels, c'est les sanctuaires de Dieu même, c'est les sacrifices suprêmes de Jésus-Christ. L'une et l'autre constituent des fondements de chaque alliance et de chaque ordre. D'une part, nous avons la loi. La loi, c'est Dieu qui l'a donnée au peuple afin de garantir leur bénédiction. Mais le principe que Dieu établit est le suivant. Celui qui obéit par la loi vivra par elle. Si tu obéis à cette loi que Dieu te donne, Deutéronome dit, voici les bénédictions qui te suivront. Et ce sont des bénédictions formidables. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Ta criche, ta huisse sera bénie. Même le fruit de tes entrailles, ton troupeau, tout ce qui est à toi sera béni. Mais malheureusement, la loi a son versant. C'est de l'autre côté, si tu désobéis à la parole de cette loi, voici toutes les malédictions qui te suivront. Et là, ce n'est même pas des choses intéressantes, c'est des maladies, c'est des ennemis qui te poursuivront jusqu'à t'exterminer, c'est l'exil qui t'atteindra, c'est Dieu te frappera de délires et de toutes ces choses-là. Ça, c'est le fondement de la loi. D'autre part, nous avons la grâce. Et vous voyez, la première des choses que je voudrais dire, c'est que la loi a été donnée. Elle a été envoyée. Moïse l'a reçue et l'a donnée au peuple. C'est comme une lettre qu'on vous envoie à la poste, c'est comme un colis qu'on vous donne. C'est comme de l'argent que quelqu'un vous envoie. Mais la grâce n'a pas été donnée, la grâce elle est venue. Je vais illustrer ça de la manière la plus simple. C'est comme si l'ancien infirmier lançait un cri de détresse vers moi parce qu'il est dans le besoin. Et je décide de lui envoyer de l'argent pour le soulager. Ou encore je décide de venir moi-même. Mais l'avantage de venir moi-même est le suivant. Lorsque je lui envoie l'argent, cet argent peut le soulager sur le plan matériel, mais peut-être ne pourra pas le consoler. Parce qu'en plus de l'argent, peut-être qu'il a besoin de paroles d'exhortation. Il a besoin de contacts et de chaleur. Mais lorsque c'est donné comme la loi, Dieu est resté à l'écart. Il n'a donné que la loi. Mais la grâce est venue elle-même, jusque chez l'ancien infirmier. Et lorsque moi je viens chez lui, je viens et mes paroles d'exhortation, et mon énergie, et mon onction, et mon temps, et mon argent vient avec moi. Je ne peux pas venir alors que je laisse ma main là-bas. Je viens avec tout ce que j'ai. Et c'est ça la grâce. La loi, elle a été donnée, mais la grâce est venue jusqu'à nous. J'ai essayé d'illustrer ça ce matin. Lorsque vous avez une carte bancaire et que vous voulez retirer l'argent dans la machine, ça se réfère au principe de la loi. Vous devez connaître la procédure et vous devez connaître votre code. Dès que vous arrivez devant un distributeur de monnaie, et que vous introduisez votre carte. Si par hasard, vous avez oublié un seul chiffre, ou vous avez confondu un seul chiffre de votre code, l'argent ne sortira pas. Il n'y aura aucune explication. Vous pouvez pleurer, vous pouvez expliquer que vous êtes dans l'urgence, l'enfant est en train de mourir, l'argent ne sortira pas. Mais écoutez ce que c'est la grâce. La grâce, c'est comme si vous avez émis un chèque et vous allez devant un guichet. Si vous avez oublié de mettre la date, La personne qui est au guichet vous dira d'ajouter la date. Si vous avez oublié de signer, il vous dira de signer. Et si vous avez oublié, le chèque a été mal émis, il vous dira de corriger. La loi traite d'une façon automatique. J'ai donné un autre exemple. Certains vont comprendre, certains non. Vous arrivez dans un parking automatique où la barrière ne s'élève que lorsque vous introduisez votre ticket. Donc vous arrivez là, vous n'avez pas payé le ticket, vous pouvez gronder, vous pouvez donner votre titre, tout ce que vous êtes, et même si vous êtes le propriétaire de l'endroit, et vous dites à cette barrière, c'est moi le boss de cet endroit, la barrière ne va pas s'ouvrir parce que vous avez oublié de payer le ticket ou d'introduire ce qui doit ouvrir la barrière. Par contre, la grâce, c'est comme si on place quelqu'un là-bas et c'est lui qui fait entrer les gens. Dès que tu arrives, même si tu as oublié une chose, mais s'il voit que c'est toi le boss, lui-même s'élève et lève la barrière pour que tu passes. La loi traite avec nous d'une manière automatique, tandis que la grâce traite d'une manière du cœur. J'ai donné un autre exemple que moi-même j'ai aimé, c'est comme le courant électrique. Si vous avez 30 ans ou 25 ans, c'est-à-dire vous êtes responsable, vous touchez à un fil électrique qui est nu, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes électrocuté. Si votre enfant de 3 mois touche au même fil, il sera également électrocuté. Le fil ne s'occupe pas de l'enfant ou de toi. Par contre, s'il vous arrive de casser la parapluie de quelqu'un, et qu'on vous amène devant un magistrat, un juge ou un OPJ, vous paierez, vous serez condamné. Mais si votre enfant de 3 mois casse la parapluie de quelqu'un, il est coupable, mais il n'est pas imputable, parce qu'il n'est pas en âge de raison, il n'a que 3 mois. C'est comme ça que la loi et la grâce se différencient. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez, vous voulez avoir affaire à la loi ou avoir affaire à la grâce. Moi, j'aime la grâce, parce que la grâce, elle comprend, la grâce, elle est large, mais la loi, elle est stricte et la loi est rigide. Entre-temps, je voulais dire à quelqu'un, moi comme vous, nous ne sommes pas disciples de Moïse, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas apporté la loi, Jésus a apporté la grâce. Si quelqu'un aime la grâce, qu'il acclame pour Jésus qui nous a apporté la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Quelque chose que vous n'avez pas mérité. En réalité, quelqu'un d'autre a travaillé pour la chose. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous fait grâce, lorsque nous disons que Dieu nous a fait grâce, c'est-à-dire qu'il nous a donné Jésus-Christ, quelqu'un qui mérite ce dont nous avons besoin. Et ce matin, je vais parler de ça, parce que l'ordre de Melchisédek produit la grâce, tandis que l'ordre d'Aaron produit la loi. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je disais, la loi a été donnée, mais la grâce est venue. La deuxième des choses, la loi nous montre ce qu'un homme doit être. L'homme idéal, bien sûr. La loi trace ou dessine le portrait de l'homme idéal. Mais sans vous donner la possibilité ou le moyen d'atteindre ses statures ou ses portraits. La loi, c'est juste comme une information. Dans un auditoire, on explique aux jeunes gens qui ont choisi de devenir médecins, de formules de différents médicaments, comment administrer cela. Il y a un support écrit, le procès est en train d'expliquer. Si quelqu'un souffre de telle maladie, tel genre de microbe doit être attaqué par tel produit parce qu'il est consulté de ceci et de cela. Après avoir expliqué toutes ces formules-là et que tout le monde a bien compris, entre-temps, tous ceux qui dans l'auditoire ont cette maladie, personne ne sera guéri de cette maladie en dépit de la compréhension qu'ils ont reçue et de l'explication qu'ils ont reçue. Personne ne sera guéri de cette maladie. Ça, c'est la loi. La loi nous montre ce qu'un homme doit devenir, ce que Dieu attend d'un homme. Le portrait de l'homme idéal, c'est celui qui ne commet point d'adultère, celui qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne donne pas de faux témoignages, qui ne convoite pas ce qui est autrui, qui n'a pas d'autre Dieu devant la face du Très-Haut, de celui qui honore son père et sa mère, de celui qui respecte le sabbat. Ça, c'est le profil et la loi nous le montre. La grâce de l'autre côté nous révèle le cœur du Père. La grâce nous révèle le cœur de Dieu. Parce que la loi vous montre ce que vous devez devenir, mais vous n'êtes pas en mesure d'y arriver. Mais la grâce vous ouvre le cœur de Dieu. Et lorsque vous ouvrez le cœur de Dieu, vous découvrez la dimension de la paternité. Dieu a créé l'homme parce qu'il ne voulait pas être dans la solitude. Il voulait avoir une famille qui lui appartient, qui soit différent des anges, Parce que, disons-le, les anges ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsqu'Adam a péché, il a déçu Dieu. Cette communion a été brisée. Et Dieu a envoyé son fils unique qui est venu mourir à la croix. Dieu l'a semé. Si Dieu voulait des serviteurs, il allait envoyer un serviteur. S'il voulait des esprits comme des anges, il allait envoyer un ange parce que chaque semence reproduit selon son espèce. Mais il voulait des fils et il a envoyé son unique afin que la moisson soit des moissons de fils. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous entrons dans la grande famille de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs ni des esclaves, mais nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Et des fils doivent comprendre le cœur du Père. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de grâce. Il n'a jamais souhaité ton malheur et il ne le souhaitera jamais. Dieu ne peut pas être là à pouvoir arrêter un plan pour te châtier, pour te coincer. Ça ne viendra jamais dans sa pensée. C'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Jésus enseigne quelque chose de formidable. D'abord, c'est lui qui apporte la plus grande révolution. Lorsque vous lisez la Bible et toutes les prières de la Bible, les plus belles prières de la Bible, c'est le genre de prières que Moïse a faites, Daniel, Néhémie et les autres, et beaucoup d'autres prières. Vous ne verrez pas quelqu'un dans sa prière en train de s'adresser à Dieu comme Père. Parce que la loi n'a pas donné à Israël un Père, la loi a donné à Israël un Dieu. Et tout cela s'adressait à leur Dieu. Mais Jésus apporte une révolution extraordinaire. Pour la première fois, un homme se permet d'appeler Dieu son Père et de parler de Dieu comme son Père. Mais il ne se l'approprie pas seulement lui, mais il en fait aussi notre Père. Ainsi, il nous enseigne à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes des fils et nous avons chacun sa place dans le cœur du Père. Dieu n'a pas son cœur ailleurs. Dieu a son cœur sur ses enfants. Dieu pense à chacun de nous et Dieu est préoccupé du bonheur et du bien-être de tout un chacun. Dieu n'est pas un. Tu es au centre du cœur de Dieu. Tu peux être rejeté par ton père et ta mère. La Bible dit l'Éternel te recueillera parce que tu as de la place. Tu peux même être abandonné de ton église, oublié de tout le monde, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Le cœur de Dieu est attaché à ton cœur. Tu ne dois pas souffrir de crises d'amour parce que le cœur de Dieu est rempli d'amour pour toi. Même si tout le monde te rejette, tu es précieux aux yeux de Dieu. Même s'il arrive au pasteur de te suspendre ou de t'excommunier, Dieu ne t'excommuniera jamais de son cœur. Il ne t'excommuniera jamais de sa maison. Dieu t'aime. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, nous sommes des gens de mauvaise nature, nous sommes des gens de mauvais cœur. Mais combien nous sommes bons avec nos enfants. Regardez le matin lorsque vous vous levez, vous verrez toutes les grandes personnes, les femmes, les hommes, en train de courir dans tous les sens. Qu'est-ce qui les font courir? Ce sont leurs enfants. Ils sont obligés de se réveiller à 5 heures, d'apprêter ce bout d'homme de tout petit là, les amener à l'école, conduire dans les embouteillages. Et je vous dis la vérité, si vous n'avez pas des enfants, peut-être vous n'allez pas travailler dur comme vous le faites. Vous aimez vos enfants, vous investissez en eux, parce que c'est votre avenir. Jésus dit, vous savez le faire. Lorsqu'ils demandent du pain, vous ne leur donnez pas de pierre. Lorsqu'ils demandent du poisson, vous ne leur donnez pas de serpent. Et d'autres sont même plus exigeants. Ils demandent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. D'où vous est venue la chose. Mais étant que père, vous voulez leur faire plaisir. Je disais l'autre jour, au mois de décembre, mes enfants m'ont demandé d'aller faire des skis. Je leur demande, c'est quoi encore des skis? Ils disent, c'est aller patiner dans les glaces, dans les neiges. Je dis, on le fait ça où? Ils disent, on fait ça à la frontière de l'Italie et la Suisse, au sud de la France. Ils expliquent tout ce qu'il faut. Je croyais que c'était juste un jet. Et puis la conspiration a pris tout son poids. Ils se sont entendus. Ils ont fait pression. C'est devenu quelque chose de sérieux chaque soir. Ils ont tellement insisté. Je n'ai jamais fait de ski. Je n'ai jamais rêvé. Je n'ai jamais pensé à ce que ça signifie. Mais j'étais obligé de les envoyer dans des stations à aller faire de ski. Mais la Bible dit que moi, je suis quelqu'un de mauvais cœur. Si je peux faire ça pour mes enfants, ça c'est juste du loisir. On appelle ça du loisir. Pensez-vous que Dieu ne peut pas payer le Minerval à ses enfants qui en ont besoin? Je pose la question, pensez-vous Dieu ne peut pas payer du loyer à ses enfants qui en ont besoin? Pensez-vous Dieu ne peut pas donner de la promotion à ses enfants si nous qui avons de mauvais cœurs, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants? À combien plus forte raison? Notre problème, c'est que nous n'avons pas la conscience que ces enfants ont. Ils ont la conscience qu'ils ont un papa, qu'ils peuvent se permettre de demander certaines choses et même de faire pression jusqu'à ce que la chose vienne. Mais nous ne savons pas nous mettre à la place des enfants auprès de Dieu pour réclamer, pour Vous voyez, des fois, nous venons demander à Dieu, mais l'attitude dans laquelle nous le faisons, dans laquelle nous nous trouvons, ne témoigne pas ces liens de paternité. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui t'arrive, même si t'arrives de pécher, même si t'arrives de tomber très bas, vous voyez, au fait, la parabole que nous appelons abusivement la parabole du fils prodigue, moi, je crois, en réalité, on allait surnommer autrement cette parabole. Parce que le fils est parti, il a tout oublié. Mais son père est resté perché chaque jour, en train de regarder est-ce qu'il reviendra ou il ne reviendra pas. D'ailleurs, son attitude, la manière dont il accueille son fils, vous révèle combien il attendait que cet enfant vienne. Il n'a même pas le temps que l'enfant finisse la confession. Il n'a même pas le temps que l'enfant explique quoi que ce soit. Il dit d'ailleurs, revêtez-lui de la plus belle robe, mettez un anneau de sandales au pied et organisons une fête. Lorsque son frère arrive, qui ne comprend pas ces choses, son père lui dit, toi tu es toujours dans la maison avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère que voici, il était perdu. Dieu n'a jamais condamné ses enfants. Dieu ne voudra jamais t'enterrer parce que tu as commis des fautes. Dieu veut te relever. Il veut te ramener à toi. Et tu dois être conscient que tu es un enfant. Le vendredi, j'avais mariage ici. On était en train de célébrer mariage. J'étais dans ma tenue sacerdotale. J'avais une toge. Et puis j'ai vu mes enfants sans hésiter. Sont venus monter sur moi. Et leur maman leur disait, maintenant il est devenu un prêtre. Il n'a pas d'enfant. Allez, laissez-les libres, laissez-les libres. Il ne s'en faisait pas de ça. Il continuait à monter sur moi. Ce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Qu'est-ce qui leur donne ce droit-là? Parce qu'ils sont des enfants. Et vous voyez, lorsque les enfants grandissent petit à petit, leur autonomie leur fait et oublier leur statut de fils. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ton juge. Et s'il était devenu un jour ton juge, il y a un avocat qui s'est assis à sa droite, qui ne se déplace pas afin de veiller que chaque décision que Dieu prendra sur ta vie dépendra, tiendra compte du prix que lui a payé pour que toi tu sois sauvé. S'il y a un enfant dans la salle, un enfant de Dieu, il crie Alléluia. Jésus revient après la résurrection 3 jours. Marie s'empresse de sauter sur lui dans son émotion. Jésus dit, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est votre Dieu, mais aussi vers mon Père qui est votre Père. Tu es un enfant pour Dieu et tu as de là. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui s'est faite chair et qui croient en son nom, il leur a donné un pouvoir. Et quel est ce pouvoir-là? C'est de devenir enfant de Dieu. Tout le monde n'a pas ce pouvoir, mais toi tu as un pouvoir extraordinaire de devenir enfant. Tu es devenu enfant de Dieu. Garde ces choses dans ta pensée. Mets-les dans ton cœur. Je disais, la loi nous montre le portrait de l'homme idéal sans nous donner le moyen d'y arriver. Tandis que la grâce nous révèle le cœur du Père. Un cœur plein de miséricorde, plein de compassion et plein d'amour. Une autre chose est très intéressante. Ceux qui écrivent doivent noter ceci. La loi condamne le meilleur d'entre nous. Quelqu'un le répète au voisin, dites-lui, la loi condamne le meilleur d'entre nous. Je n'entends pas. Quelqu'un répète au voisin, la loi condamne le meilleur d'entre nous. Si vous prenez ici dans cet auditoire le meilleur d'entre nous en conduite et vous le placez sur la balance de la loi, il sera condamné et non justifié. Écoutez-moi, frères et sœurs, Moïse est celui-là même qui a reçu la loi de la part de Dieu pour le peuple. Mais Moïse, disons-le, il était le meilleur d'entre eux, parce que la Bible le témoigne. Dieu dit, il n'y a pas eu un homme aussi humble que Moïse. C'est comme ça, Dieu dit, s'il y a un prophète, je lui parle en songe, je lui parle en vision, mais Moïse, je lui parle en face. Mais savez-vous que Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Et pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, tu parleras au rocher pour qu'il donne de l'eau au peuple. Mais Moïse, dans son irritation, a frappé sous le rocher et 2 fois d'ailleurs. L'eau est quand même sortie. Mais Dieu lui dit, toi, tu n'entreras plus dans la terre promise. Mais si c'est lui qui a amené la loi l'a frappé ainsi, qui entrera alors? Frères et sœurs, la loi condamne le meilleur d'entre nous. Et je vais vous le prouver. Venez avec moi dans Luc chapitre 18. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Luc chapitre 28. Dites au voisin, la loi condamne le meilleur d'entre nous. À partir du verset 18, Luc 18, à partir du verset 18, écoutez ce que la Bible dit. Et lorsque vous rentrez à la maison, cherchez-les dans l'évangile de Matthieu, et dans les autres évangiles, et voyez aussi les autres tournures que Luc a raté de mentionner. Luc 18, verset de la Bible dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous voyez, il appelle bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et si c'est Jésus qui le dit, ça devient grave. C'est Jésus qui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais écoutez, il continue, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Jésus n'a même pas fini. Lorsque vous faites une étude sémantique de ce texte, mettez toutes les versions ensemble, allez même dans les commentaires, les interlignes de votre Bible, et vous comprendrez que Jésus n'a même pas fini sa phrase. Parce qu'il n'a pas donné toute la loi. Il était en train de citer les différents articles de la loi. Il n'a pas parlé de l'idolâtrie, il n'a pas encore parlé de ceci. Et les jeunes hommes coupent Jésus la parole et s'en prestident. Toutes ces choses-là, je les ai observées depuis ma jeunesse. Et un autre évangéliste, je crois, Matthieu dit, et Jésus l'aima, parce qu'il n'a pas menti, c'était vrai. Jésus l'a admiré, l'a apprécié. C'était un homme formidable. Je dit-il, observer toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, donc ce que Jésus va dire dans la suite, dépend de ce qu'il vient d'entendre, qu'il a observé tout cela depuis sa jeunesse. Et je comprends la raison pour laquelle il était riche déjà dans sa jeunesse. Il était jeune, il était riche, c'est parce qu'il a observé la loi de Dieu. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as distribué aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire et qui peut être sauvé, c'est pour dire, là tu exagères l'or. S'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche, alors là tu es qui peut être sauvé alors. La réponse de Jésus est intéressante. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus voulait donc dire, c'est impossible à un homme de se sauver lui-même. Mais si c'est Dieu qui fait le sauver, ça devient possible. Je n'ai pas entendu votre amen. Je vais expliquer ce texte. Ce jeune homme vient voir Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire? J'ai envie de faire des choses, moi là, je veux faire. Mais dites-moi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais la loi de Moïse, mets-la en pratique. Et le temps que Jésus récite la loi, il n'a pas fini. Le jeune homme dit, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. J'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Jésus l'admira parce qu'il a dit vrai. Mais Jésus lui ajoute une autre loi que Moïse n'a pas donnée. Il dit, va et vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres, suis-moi. Le jeune homme est devenu tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il n'a plus suivi Jésus, son histoire s'arrête là. La Bible ne parle plus de lui. Donc, quelle est la conclusion? C'est qu'il est venu chercher, il ne l'a pas reçu, la vie qu'il voulait éternelle. Il ne l'a pas reçu. Parce que la seule chose qui lui manquait, après avoir tout accompli, il est tombé là-dessus. Si ce jeune homme peut être disqualifié de la vie éternelle, qui d'entre nous est meilleur que ce jeune homme? Lui, il a tout observé depuis sa jeunesse. C'est pour dire que personne ne peut être sauvé par la loi. La loi condamne le meilleur d'entre nous. Il y aura toujours une autre chose qui va te rattraper lorsque tu te confies à la loi. Quels que soient les efforts que tu fournis. C'est pour cela, je veux que l'Église laisse tomber cette mentalité de mérite qui consiste pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la religion et qui nous a donné beaucoup de retard dans la vie. Ceux qui l'ont pratiqué des années durant n'ont pas pu. Écoutez maintenant, je disais la loi condamne le meilleur d'entre nous, mais la grâce sauve le pire d'entre nous. Répète-le aux voisins, dites-lui, la grâce sauve le pire d'entre nous. Vous vous rappelez, frères et sœurs, avant que je n'arrive là, allons juste dans le chapitre qui suit. Parce que le chapitre 18 que nous avons lu nous démontre que la loi condamne le meilleur d'entre nous. Mais maintenant, le chapitre 19, et vous verrez comment la grâce justifie ou sauve le pire d'entre nous. Jésus étant le premier verset, je lis 19, le premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le sali est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Qui me donne un amen? Bien-aimés, vous voyez, tout de suite après Luc 18, c'est Luc 19 qui arrive. Jésus arrive à Jéricho. Un homme de mauvaise vie, un publicain. Un publicain veut dire un collecteur d'impôts. C'est la même qui travaillait pour le gouvernement romain et que les Juifs rejetaient. Il était un homme plongé dans la corruption à cause du système dans lequel il évoluait. Lorsque vous voyez sa confession qu'il fait, vous comprenez de quoi il est question. Et un publicain, ce sont ces gens qui s'en foutaient de la loi de Moïse. Ils n'avaient rien à voir. Ils pouvaient avoir 2, 3, 4 femmes, 5 petites filles, copines qu'il est en train d'entretenir. Mais sa curiosité et sa soif l'a amené à monter sur un arbre afin de voir Jésus-Christ. Jésus était en train de passer. Il s'arrête là. Et il demande à Zachée de descendre. Et il décide d'aller chez lui à la maison. Et tous ont murmuré. Et ces gens, nous ne devons pas les condamner. Ils avaient raison de murmurer parce que Zachée n'était pas un modèle. Ce n'était pas un homme de bonne vie. Les gens disent qu'il est allé loger chez un pécheur. Parce qu'il y a des gens du milieu de nous qui sont des pécheurs, mais personne ne connaît ses cachets. Mais Zachée était un pécheur du genre, tout le monde connaît qu'il est pécheur. Et les gens commencent à murmurer, c'est un faux prophète. S'il était un saint de Dieu, il allait savoir que cet homme est un pécheur. Mais Jésus arrive chez Zachée, il entre dans sa maison. N'oubliez pas que le jeune homme riche, qui a observé la loi depuis sa jeunesse, n'a pas accepté de vendre tout ce qu'il avait. Il n'a même pas dit à Jésus, « Permets-moi de vendre ne fût-ce que la moitié. » Mais Zachée, le pécheur, le pauvre, Zachée, il dit au Seigneur, sans que Jésus ait demandé, il dit, « Je vendrai la moitié de mes biens et je les donnerai à qui ? Aux pauvres. » Et il dit, « Si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai fois 4. » Ça, c'était l'exigence de la loi de Moïse. Si tu as fait du tort à quelqu'un, tu dois réparer fois 2. Mais lui va au-delà de la loi de Moïse, il le fera fois 4. C'est que le jeune homme riche n'était pas en mesure de faire. Mais regardez ce publicain, cet homme de mauvaise vie. Jésus ne lui a donné aucune loi. Jésus lui a manifesté simplement la grâce. Et la grâce l'a conduit à la repentance. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque Zachée explique toutes ces choses, je vais rendre au quadruple, je vais vendre. Jésus ne s'intéresse un peu comme l'enfant, le père de l'enfant prodigue. Il ne s'intéresse même pas de ces confessions-là. Jésus dit, aujourd'hui, le sali est entré dans cette maison. Parce que celui-ci a obéi à toute la loi depuis sa jeunesse, c'est ça? Je pose la question. Le sali est entré dans cette maison parce qu'il donnera la moitié des biens aux pauvres? Le sali est entré dans cette maison parce qu'il va réparer tous les torts qu'il a commis? Le sali est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Savez-vous qu'Abraham n'a pas vécu dans la dispensation de la loi? La loi est venue par Moïse. Abraham a vécu dans la dispensation de la promesse. Et la promesse devait être saisie ou héritée par la foi. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Le problème du jeune homme riche, lui voulait faire pour être sauvé. Et ce qu'on lui a demandé de faire, il n'était pas en mesure de le faire. Zachée, lui, ne voulait rien faire. Il n'avait rien à voir avec tout cela. Jésus l'a fait pour lui et le lui a donné. Zachée est entré dans le royaume de Dieu avant le jeune homme riche. J'espère que ce jeune homme a eu l'occasion d'entrer plus tard. Je ne sais pas s'il est entré, mais oh mon Dieu, ça c'est l'accélération divine aussi. Parce que par rapport à l'entrée du royaume, le jeune homme riche n'était pas loin du royaume. Souvenez-vous de quelqu'un à qui Jésus a dit que tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas dedans, mais tu n'es pas loin. Tout ce qu'il a fait l'a amené à la porte du royaume. Mais Zachée était bien derrière là-bas. Mais cet homme dit, que dois-je faire? La loi, c'est ce que vous devez faire. Et ce que vous devez faire ne vous avancera pas par rapport au royaume de Dieu. Mais ce que Dieu doit faire, n'oubliez pas, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? D'entrer dans le royaume de Dieu par eux-mêmes. Parce que la logique, c'est celle-là. Il parlait qu'il était facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible de le faire par vous-même. Frères et sœurs, tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par grâce. L'ordre de Melchisédek est bâti sur ce principe de grâce. En fait, Jésus a tout accompli. Et il est venu se tenir devant Dieu, à la droite de Dieu, afin de s'assurer que tout ce qu'il a accompli, tout ce que lui a accompli, nous nous moissonnerons. Refusez tout système de loi. Ça ne vous avantagera en rien. Regardez, frères et sœurs, je suis en train de démontrer que la loi condamne les meilleurs d'entre nous, tandis que la grâce justifie et sauve les pires d'entre nous. Un jour, on a arrêté une femme en flagrant délit d'adultère. Or, vous le savez bien avec moi, l'adultère se commet toujours en deux, jamais seul. Mais nous ne savons pas cet homme où est-ce qu'il était. Un prédicateur était en train d'imaginer ou de soupçonner que certainement l'homme, ça devrait être un pharisien. C'est comme ça ses amis pharisiens l'ont fait fuir et ils ont amené la femme auprès de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils arrivent auprès de Jésus, ils rappellent à Jésus que Moïse dans la loi nous a demandé de lapider de telle femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus commence à écrire par terre. Et n'oubliez pas que la loi a été écrite par les mêmes doigts de Dieu sur des tables de pierre. Et cette fois, quand on est en Israël, on dit qu'il écrivait par terre. Vous ne comprenez pas. En Israël, le terrain est rocaillé. C'est-à-dire c'est sur les pierres encore qu'il écrivait, sur le roc qu'il écrivait. Et puis ils l'ont harcelé. Et puis Jésus lève le visage et pose la question. Celui qui d'entre vous n'a jamais violé la loi de Moïse, c'est ça péché, non? Celui qui d'entre vous n'a jamais violé la loi de Moïse, qu'il prenne la première pierre et qu'il jette. Parce que Jésus voulait dire, l'adultère n'est pas un élément isolé qui est venu en lui-même. L'adultère est venu dans le cadre d'une loi complète. Et celui qui viole un commandement, il viole tous les autres commandements. Celui qui d'entre vous n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre et qu'il jette. Vous voyez, ces gens qui ont attrapé cette femme, c'était des légalistes, des gens qui voulaient l'ordre dans la société. C'était parmi l'élite de la pureté et de la sanctification en Israël. Mais lorsque Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Chacun s'est examiné lui-même. Et il a vu, la Bible dit, du plus grand au plus petit. Parce que les grands ayant vécu longtemps ont commis plus d'abus sur terre et plus de péchés. Ils ont commencé à s'éloigner, à partir. Et lorsque Jésus relève le visage, il demande à la femme, où sont ces gens qui étaient condamnés? Qui t'a condamné? Les meilleurs d'entre eux se sont retrouvés condamnés par la loi. Et ils sont partis d'eux-mêmes. Et Jésus dit à la femme samaritaine, va chez toi, ne pêche plus, et lorsque je vérifierai que tu n'as plus péché, moi aussi je te condamnerai pas. C'est ce qu'il a dit? Non. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. L'acte qu'elle a commis est condamnable. Mais Jésus dit, parce qu'on est venu l'amener en fonction de l'acte qu'elle a commis. Mais comment Jésus ne condamne pas l'adultère? Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. S'il vous plaît, lorsque nous serons au ciel, rappelez-moi que nous puissions poser la question au Seigneur et à cette femme si elle avait dans la suite commis encore adultère. Je ne pense pas. Elle a grandi dans la société juive. On lui a enseigné la loi de Moïse depuis sa jeunesse, mais ça ne l'a pas empêché de commettre adultère. Mais Jésus dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va maintenant et ne pêche plus. La grâce que je te donne, te donne le pouvoir, t'équipe de la capacité de ne... Qui a dit que la grâce pousse les gens à pécher? Si quelqu'un a reçu la grâce et qu'il vit dans le péché, il n'a jamais reçu la grâce. quelqu'un ne peut pas être plongé dans l'eau et qu'il sort sans être mouillé. Quand quelqu'un reçoit la grâce le sanctifie. Parce que la grâce est la force qui vous pousse à ne plus pécher. Vous voulez que j'aille loin? La loi est la patte qui vous pousse à pécher. Ouais. La loi, c'est ce qui crée l'envie de pécher. Si Dieu n'avait pas dit à Adam, et vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre là, du milieu là, peut-être qu'ils n'auraient même pas mangé parce que l'arbre de vie, ils n'ont pas mangé. L'arbre de vie était dans le jardin, ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Pourtant, c'était dans le jardin. La loi était un appât qui a tué le péché. D'ailleurs, je vais le dire correctement, la Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Tandis que la grâce est ce qui sort les gens du péché. Je vous assure, n'oubliez pas, rappelez-moi au ciel, Dieu nous prouvera et cette femme adultère vous dira que depuis que Jésus a dit ça, elle n'a plus jamais commis d'adultère. L'amour vous sort plus de péché que le jugement. La grâce vous rend capable de vaincre le péché que la loi. Vous connaissez l'histoire d'un pharisien qui est entré dans le temple. À côté de lui, il y avait un autre publicain, un ami de Zachée, un collègue de Zachée. Et tous deux ont commencé à prier. Les pharisiens priaient comment? Je jeûne deux fois par semaine. Chaque mardi et vendredi, ça c'est moi qui ajoute. Je donne la dîme de tout ce qui tombe entre mes mains. Je prie autant de fois. J'observe la loi. Il a expliqué tout ce qu'il faisait. À côté de lui, il y avait un publicain qui frappait sa poitrine, qui ne pouvait même pas relever sa tête, qui disait, oh Dieu, aie pitié de moi, je suis pécheur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Jésus conclut quoi? Qui est rentré dans sa maison justifié? Le publicain. Mais le pharisien n'est pas rentré justifié, parce qu'en disant ce qu'il a fait, il y aura toujours quelque chose que vous n'avez pas fait, ou que vous avez mal fait, qui vous condamnera. Frères et sœurs, Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre, pas pour apporter la loi, mais pour apporter la grâce. Dieu est devenu un homme. Il est entré à l'école de l'humanité afin de comprendre la faiblesse de la chair, afin de comprendre les tentations de la chair, afin de comprendre les limites de la chair. Après avoir compris toutes ces choses-là, il a été tenté à tous égards comme nous. Il n'a point commis de péché. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée là. Le fait de quitter le ciel, de venir sur la terre, de se dépouiller de sa divinité pour devenir un homme, c'était déjà un exercice compliqué. Mais en plus de cela, il est devenu serviteur, a accepté d'aller à la croix du calvaire. Et là, il a donné de sa vie à la croix. Il y a un mystère extraordinaire qui s'est passé de celui qui est venu du trône jusqu'à la terre. De la terre à la croix. De la croix à la tombe. De la tombe, il est rentré au ciel à la droite du Père. Mais là, à la croix, il a payé le prix de nos péchés. Pas seulement nos péchés passés, nos péchés présents, et même des péchés que nous n'avons pas encore commis, le prix a été déjà payé. Et il a pris sur lui les conséquences du péché. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris nos manquements. Il est devenu malédiction à notre place. Et en mourant à la croix du calvaire, il a versé de son sang. Et il s'est écrié, Père, tout est accompli. Nous devons faire attention à ce que notre manière de prier, j'allais dire notre religion, ne puisse pas anéantir l'œuvre de la croix. Le salut est par la grâce au moyen de la foi. Quelqu'un l'a fait pour nous. Tout ce que la Bible nous demande, c'est de faire confiance à ce que lui a fait pour nous. Frères et sœurs, le succès dans la vie chrétienne ne dépend pas de ce que vous faites pour Dieu, mais ça dépend de ce que Dieu a fait pour vous. Et la prise de conscience de ce que Dieu a fait pour vous, c'est ce qui vous fait avancer. Je vais dire à quelqu'un, la grâce veut dire accepter que cette maladie, que toute la loi de médecine ne peut pas guérir, cette maladie-là, Jésus l'a pris à la croix du calvaire. Et en retour, tu as droit à la santé divine. La grâce veut dire, mes ancêtres ont péché et ils ont induit toute la famille dans les liens sataniques. Mais Jésus est devenu malédiction à la croix parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait des effets pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce veut dire c'est accepter que ça peut se passer aujourd'hui. Il n'y a rien à attendre. Le problème que nous avons toujours, c'est que nous voulons toujours remplir les critères et les conditions qu'on nous a données. Vous êtes à l'article numéro 7. Il vous reste 3 articles, après vous allez vous marier. Mais plus le temps passe, les articles s'allongent également. Trouvez-moi une seule femme mariée, même si elle n'est pas chrétienne, et qu'elle nous donne des critères qu'elle a remplis dans le bulletin qui donne à quelqu'un le droit de se marier. Par contre, vous remarquerez, chaque personne qui observe attentivement, chaque privilège que Dieu donne est une grâce. Vous verrez beaucoup de bonnes femmes ne sont pas mariées, et des femmes qui ne le sont pas véritablement sont entre-temps mariées. Vous ne pouvez rien expliquer pourquoi c'est arrivé à un tel, pas à un autre. La différence, c'est la grâce. Mais c'est à nous d'apprécier cette grâce. Je vais dire à quelqu'un, vous pouvez devenir 1000 fois meilleur que ce que vous êtes ce matin si vous ouvrez votre cœur à la notion de la grâce. Faire confiance à Jésus, il a payé le prix. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas concevoir parce que tu as avorté dans ta jeunesse, ça ce sont des lois, je ne sais pas moi, de la médecine ou les lois sociales des hommes. Mais la loi de la grâce veut dire, Jésus est mort à la croix pour ces mêmes iniquités. Ça sera injuste de la part de Dieu de continuer à vous en vouloir parce que vous êtes tombé dans l'adultère, parce que vous avez volé. Entre temps, Jésus est mort à cause de cela. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. La vie est dans la grâce. L'épanouissement est dans la grâce. Le bonheur est dans la grâce. Parce que la loi condamnera le meilleur d'entre nous, mais la grâce a le pouvoir de sauver le meilleur d'entre nous. Frères et sœurs, notre salut dépend de la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ et de notre capacité ou de notre volonté à accepter l'œuvre qu'il a accomplie par la foi. Frères et sœurs, si la grâce n'existait pas, notre relation avec Dieu serait semblable à nos relations avec nos semblables. Vous voyez des relations que nous avons les uns vis-à-vis des autres, et l'évolution de ces relations ou leur rupture dépend de ce que nous faisons les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez quelqu'un qui a aimé quelqu'un de tout son cœur, et quelques temps après, il commence à l'haïr de tout son cœur. Quelqu'un qui a vanté quelqu'un de tout son cœur, il commence à le critiquer de tout son cœur. Pourquoi nous allons d'une extrémité à une autre? À cause du fait que nos relations sont basées sur ce que nous sommes à mesure de faire. Or, l'homme change toujours. Il peut faire du bien et du mal aujourd'hui. Et si notre relation avec Dieu dépendait de ces caprices-là, personne ne pourra tenir. Nous serons enfants de Dieu aujourd'hui, demain il nous chassera de sa maison, après demain il nous récupérera. Notre relation avec Dieu est basée sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Et personne ne peut remplacer ce que Jésus a fait à la croix. Acceptez ça comme tel et vous verrez de grandes portes vous ouvrir. Frères et sœurs, celui qui s'efforce à placer sa confiance à Jésus fait plus plaisir à Dieu que celui qui concentre ses efforts à faire ce qui est agréable. Parce que la Bible dit, toute notre justice devant Dieu n'est que comme un habit souillé. Nous ferons tous nos efforts, ça ne pourra jamais plaire à Dieu. Supposons que quelqu'un pour se sauver décide d'offrir à Dieu sa propre vie. Il va se suicider, s'immoler afin d'offrir à Dieu. Mais lorsque Dieu regarde ton sang qui est versé, il voit encore les traces du péché dans ce sang. Et ce péché qui est dans le sang commence à te condamner. Lorsque tu fournis des efforts, ta sueur est attachée de péché. Cela te condamne encore. Mais lorsque tu mets ta confiance au sang qui a coulé à la croix du calvaire, je parle de l'œuvre de Golgotha, de celui qui a pris ta place afin de te sauver. Frères et sœurs, la grâce peut faire que quelqu'un que la médecine a condamné à ne jamais avoir des enfants, quelqu'un à qui on a imputé, je ne sais pas moi, les trompes ou les autres organes génitaux, la grâce peut faire que vous puissiez concevoir, avoir un enfant. La grâce enlève la condamnation que les gens placent sur vous. Si votre vie, vous avez raté des opportunités, vous avez commis des erreurs, vous avez commis des fautes qui vous ont fait reculer ou bloquer, il est temps de sortir de cette culpabilité. Parce que les erreurs que vous avez commises n'ont rien à voir à ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. En acceptant de mourir, Jésus a payé beaucoup plus que vous aviez besoin pour d'autres sauver. Le salut a un nom. La guérison a un nom. Le succès a un nom. La percée a un nom. La grandeur a un nom. Dans ce royaume, tout cela a un nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque s'efforce à obéir à tout ce que le Fils dit aura la vie éternelle. Afin que quiconque s'efforce à être saint aura la vie éternelle. Afin que quiconque croit au Fils. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous appartenons à la famille de Dieu, mais nos méthodes d'approche sont les méthodes que nous avions lorsque nous étions dans le monde. C'est-à-dire, pour chaque chose, il faut sa propre solution. Jésus est mort pour que j'aie la vie éternelle, mais pour les autres choses, nous avons... Non! Jésus n'est pas seulement mort, c'est-à-dire lorsque tu le reçois, et tout ce qu'il a fait s'arrête là. Non! Jésus est mort pour te prendre en charge. Au fait, c'est l'échange qui s'est fait. Je vais dire à quelqu'un ceci. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous pouvons prier pendant 40 jours et 40 nuits. Nous pouvons veiller toute une nuit. De tout ce que nous dirons et de tout ce que nous ferons, il n'y a qu'une chose qui est essentielle. Tout le reste n'est que, je voulais dire, complémentaire ou accessoire. Qu'est-ce qui est essentiel? Vous serez surpris. C'est ces quatre mots. Au nom de Jésus. Cela veut dire ceci. Vous pouvez prier toute une journée. Si vous oubliez de mettre le nom de Jésus, ou si vous ne le faites pas au nom de Jésus, toutes ces prières, c'est une perte de temps. Parce que Dieu évalue tout en fonction de Jésus. Mais si vous priez au nom de Jésus, pourquoi vous ne voulez pas vivre au nom de Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas marcher au nom de Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas être guéri au nom de Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas la promotion au nom de Jésus? Frères et sœurs, c'est au nom. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Lorsque la Bible parle de salut, ça parle de tous ces paquets qui contiennent la guérison, la délivrance, toutes les bénédictions que vous voulez, a été manifestée. La source de salut, c'est la grâce de Dieu. Retournons à la notion de la grâce. Plaçons nos regards à l'œuvre de la croix. Nos erreurs et nos fautes n'ont rien de comparable au prix qu'il a payé. Le prix est largement au-dessus de toutes nos fautes multipliées fois 100. De toutes les bêtises que nous ferons multipliées par 100, le prix est largement au-dessus. La vie est dans le nom de Jésus. La confiance doit être placée à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et tout le reste, acceptons de le prendre par la grâce. Je veux que ce matin, quelqu'un reçoive sa bénédiction par la grâce de Dieu. Je veux que ce matin, au nom de Jésus, quelqu'un soit béni par la grâce. Je veux que ce matin, sans rien faire, simplement en plaçant sa confiance au nom de Jésus, que quelqu'un soit guéri de ses infirmités. Je veux que ce matin, sans rien de plus, juste en plaçant sa confiance au nom de Jésus, que quelqu'un voie des portes s'ouvrir. Que cette semaine qui commence, que la grâce vous précède et accomplisse pour vous des choses que vous ne pourrez jamais accomplir de vous-même. Que Dieu dans son amour s'élève et qu'il se souvienne de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du calvaire. Lorsque Dieu vous regarde, qu'il ne voit rien d'autre, qu'il ne voit que la personne de Jésus. Parce qu'en réalité, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jésus qui vit en vous. La loi ne vous amènera nulle part, mais la grâce vous ouvrira le cœur du trésor du Père. Si quelqu'un a commis des péchés dans cet auditoire, que ces péchés lui soient pardonnés maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un souffre des conséquences de ses péchés, que ces conséquences soient dissoutes ce matin dans le nom de Jésus. Que la faveur et la grâce vous localisent où que vous soyez. En vous regardant, que Dieu voit le nom de Jésus et que le salut arrive, la bénédiction arrive. Que quelqu'un relève sa tête, qu'il refuse la condamnation du diable. Frères et sœurs, je termine en disant, si vous accédez, si vous vous enrôlez dans la logique, si vous adhérez dans la logique de la grâce, vous ôtez au diable tout argument contre vous. Parce que le diable, auprès de Dieu, étant qu'accusateur, il vous accuse par rapport à la loi de Dieu. Mais lorsque nous allons dans le terrain de la grâce, le diable n'a rien à vous reprocher. Parce que la grâce me dit, Jésus a pris votre place, vous avez pris la place de Dieu. Frère, croyez à ce que je vous dis. Job était un homme intègre. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais le diable a eu quand même quelque chose pour l'accuser. Il a dit à Dieu, même la crainte qu'il a là a des mauvais motifs. Vous pouvez craindre Dieu, mais le diable dira quand même, cette crainte-là, c'est parce que tu veux telle chose dont tu es flatté. Dieu a dit au diable, c'est ce que tu penses? Ok, mets-le maintenant à l'épreuve et nous saurons les mobiles qui ont animé sa sainteté. Voyez un homme comme Job qui craignait Dieu, mais le diable a trouvé quand même quelque chose pour l'affliger. Mais lorsqu'il est question de la grâce, le diable s'éloigne de vous. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de la grâce, tout ce qu'il devait vous faire, Jésus l'a porté à la croix du calvaire. Raison pour laquelle Jésus est assis à la droite du Père, avec ce maître sûr. C'est pour veiller que tout ce que Dieu fera, tout ce que Dieu dira, votre relation avec Dieu ne sera pas basée par rapport à vous-même, mais ça sera basé par rapport à l'œuvre que lui a accomplie à la croix du calvaire. Que Dieu glorifie l'œuvre de la croix. En vous donnant des choses que vous ne méritez pas, mais que Jésus a mérité en acceptant de mourir à la croix. Que votre vie puisse s'élargir, que la culpabilité et la condamnation tombent. N'écoutez pas les mensonges des gens qui vous condamnent. Ceux qui vous condamnent ne sont pas meilleurs que vous. Peut-être dans ce domaine-là, vous avez failli, et aussi en d'autres domaines dans lesquels ils ont failli. Écoutez-moi, j'aime dire, celui qui peut te changer ne te condamne pas. Qui donne le droit à ceux qui n'ont aucun pouvoir de te changer, de te condamner. Voilà, celle-là qui condamnait la femme adultère n'avait aucun pouvoir de le changer. Mais celui qui avait le pouvoir de le changer a dit, moi je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Tu n'es pas condamné, tu es justifié par le sang de l'agneau. Va et ne pêche plus, tu es justifié. Tu peux plaider non coupable. Je déclare ce matin, tu peux lever tes regards et regarder Dieu en face. Tu peux regarder le diable en face et lui dire, je plaide non coupable. Parce que le sang qui a été répandu à la croix ne couvre pas mes péchés, mais ce sang a ôté mes péchés. Ne regrette pas le passé, ne regrette pas les fautes du passé. Jésus s'est occupé de tes fautes, de tes péchés et de leurs conséquences. Il y a un avenir meilleur à cause de la grâce de Dieu. Que cette grâce travaille pour toi. Quelqu'un crie alléluia, que je l'entends. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit la grâce par la foi, on croit à la grâce, notre plus grand ministère devient le ministère d'adoration et de louange. Nous passons plus de temps à l'adorer, à le louer, à l'apprécier à cause de tout ce qu'il a accompli. Et des gens qui ne connaissent pas la grâce investit tout le temps à refaire ce que je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas la paix, je ne mérite pas, Seigneur, la vie, mais c'est par ta grâce. Toi, tu es mort à ma place. Tu m'as délivré de la dureté de la loi. Tu m'as délivré de la dureté de la loi qui pouvait m'écraser et me condamner. Je veux que quelqu'un parle à Dieu, qu'il apprécie la grâce de Jésus, qu'il remercie le Seigneur pour sa grâce. Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Quelqu'un est en train de remercier Jésus? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprécier l'œuvre de la croix? Oh mon Dieu! Tout ce que Dieu donne a comme base la grâce. L'accélération divine a comme base la grâce.
Et honneur, nous levons nos mains et te louons. En exaltant ton saint nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi.
Exprime-lui ton amour. reconnaissance. Il est ton Père. Parle à ton Père et tu lui ton amour.
Que
donnerons-nous à Jésus? Le prix qu'il a payé est au-delà de tout ce dont nous avons besoin. Sont fermés dans l'auditoire. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, en ce début de l'année, Dieu a besoin de ton cœur. Tu dois décider. C'est réaliser simplement que je suis pécheur, pas parce que je pêche, mais parce que j'ai décidé de conduire ma vie moi-même. Et je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne parle pas de prier. Je ne parle pas de naître dans une famille chrétienne. Mais je parle d'un jour où tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ qui devient le Seigneur de ta vie. Si vous n'avez jamais pris cette décision, là où vous êtes, levez votre main. Si vous êtes debout, brandissez votre main. Il y a des anciens, il y a des gagnants d'âmes, il y a des ouvriers. Si vous êtes engagé et vous êtes à côté de quelqu'un qui lève la main, vous le prenez, vous l'amenez au salon. Et là au salon, il y a des gens qui vont s'occuper de pour les aider à recevoir le Seigneur. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, s'il vous plaît, là où vous êtes, levez votre main. Ne vous gênez pas. C'est le jour du salut. C'est la grâce. Vous n'avez rien à faire sinon vous repentir de vos péchés et accepter de donner votre vie à Jésus-Christ. Vous levez votre main. Un ouvrier, un gagneur d'âme, un ancien, un intercesseur ou un formateur vous prendra de là où vous êtes et vous conduira au salon. Levez simplement votre main si vous n'avez jamais décidé pour Jésus. N'hésitez pas, c'est la meilleure décision qu'un homme peut prendre. Tout le reste vous demandera de grandir en lui. Mais la première chose, il faut naître en lui. Oh, merci pour des gens qui décident. Amenez-les directement au salon, merci pour des gens qui décident. Pour le reste de l'église, j'aimerais prier pour vous. Élevez légèrement votre main, j'aimerais prier pour vous. Je vois une semaine glorieuse. C'est comme ça que vous m'avez vu au début faire toutes ces déclarations. C'est parce que je vois une grande semaine s'élever. Je vois le Dieu d'Abraham envoyer ses anges ouvrir des portes qui jadis étaient fermées. Je vois des grandes choses arriver. Une semaine peut enfanter des choses qui tournent votre vie, qui les fait accéder à des dimensions qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais tout cela, c'est par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Vous devez accepter qu'il est possible d'être guéri ce matin. Cette maladie que vous avez traînée des années durant, que Jésus veut le prendre et il veut vous donner sa santé divine. Vous devez accepter que ces portes qui ont été jadis fermées, Jésus veut les ouvrir pour vous. Je parlais de la grâce. Arrête de penser, je ne connais personne. Qui le fera pour moi? Arrête de le penser. Des femmes qui ont posé la question qui nous roulera la pierre, elles n'ont pas eu de réponse. Mais arrivez au lieu, la pierre était déjà roulée. Je veux que quelqu'un s'appuie sur la grâce. Des choses extraordinaires. Votre vie peut fleurir. Elle peut être embellie. Elle peut dégager un parfum de vie. Si vous acceptez la grâce ce matin, levez légèrement votre main. Et je vais prier pour vous. Suivez ma prière. Croyez à cette prière. Croyez à cette prière. Elle fera des résultats extraordinaires dans votre vie. Non parce que c'est moi qui prie ou je sais prier, mais parce que je vais le faire au nom de Jésus. Et Dieu m'a demandé de le faire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la routine de tous les jours et l'environnement dans lequel nous vivons nous éloigne chaque jour petit à petit de la notion de la grâce. Et nous retourne dans la notion de la loi. C'est pas la loi de Moïse, mais les lois de notre société, les lois de nos familles, les lois de notre environnement, les règlements établis ici et là pour que quelqu'un soit promis, pour que quelqu'un se marie, pour que quelqu'un réussisse. Il y en a tellement de critères et de lois. Nous avons compris que nous n'arriverons jamais à remplir tous ces critères. Et nous avons fait un choix, c'est de nous confier en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je prie avant le dimanche prochain que de miracles soient déposés entre les mains de tes enfants. Je veux que des gens pleurent de joie parce que des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer, parce qu'ils sont loin de remplir les critères, que ces choses leur soient données, que ces portes leur soient ouvertes, que cette grâce leur soit donnée. Seigneur, merci d'avoir sanctifié tous ceux qui, Seigneur, étaient sous le poids du péché ou de la culpabilité. Seigneur, tu m'as dit, c'est à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Et je proclamais, et ils sont pardonnés, tous ceux qui sont tombés dans le péché ou qui vivaient dans le péché. Merci pour le pouvoir qu'a la grâce de les sortir, de les libérer du pouvoir du péché. Des jeunes gens, des jeunes filles prendront la décision, non par eux-mêmes, mais ta grâce les sortira des liens de la chair, de l'impudicité, de la convoitise, et des hommes et des femmes, des citrons, les sortir de toutes les choses dans lesquelles, non parce qu'ils feront des efforts, mais parce qu'ils croient en celui qui est mort pour eux à la croix du calvaire. Quelqu'un est-il malade au milieu de nous, Seigneur? Que maintenant même, il reçoit la guérison par la grâce au moyen de la foi, parce que Jésus emporte le maître ici jusqu'aujourd'hui. Il emporte les traces, même dans l'éternité, les traces de la méchanceté des hommes et du diable et des conséquences de péché. Quelqu'un est venu avec un fardeau ce matin. Il croupit sous le poids de la malédiction, des problèmes, des fardeaux du chômage, du célibat ou de tout autre problème qui l'accable. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, prenez mon joug car il est léger. Toi, tu as pris notre joug qui pèse. Tu as porté la croix et tu nous donnes ton joug qui est léger. Je veux que Seigneur, il se décharge ce matin, que tout le fardeau reste ici, que tout celui qui sort de ses liens, qu'il y ait de la joie et la paix dans son âme, qu'il y ait une force nouvelle, qu'il y ait une inspiration nouvelle, et que des portes s'ouvrent, Seigneur. Que des témoignages soient, Seigneur, dans un nombre que nous ne pouvons pas imaginer. Merci pour la guérison des malades. Merci pour la délivrance des captifs. Merci pour les pièges de l'ennemi que tu déjoues. Merci pour la victoire que tu donnes ce matin. Oh Jésus! Oui, Seigneur. Notre Seigneur a tout accompli à la croix du calvaire. Tout est accompli. Et nous prenons les retombées de tout cela. Et nous l'expérimenterons. Nous proclamerons tes bontés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Qui donne un grand amen. Pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Qui a été béni au service de ce matin? Que toutes les bonnes paroles qui ont été déclarées produisent des résultats dans ta vie. Et tout cela dans un rythme d'accélération divine. Que les gens qui sont habitués à toi et qui te voient chaque jour, qu'ils ne te reconnaissent plus avant la fin de cette semaine. À cause de la visitation de Dieu qui viendra dans ta vie, que des gens qui te méprisaient commencent à t'honorer et à te respecter. Que des choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Ceux qui ne répondaient pas commencent à répondre. Je l'ai déclaré et scellé au nom de Jésus qui me donne un grand amen. Protocole, aidez-nous à sortir à notre tandis que les musiciens chantent. Merci d'être venu à ce qui t'en se voit le mardi à 17h jusqu'à Dieu vous bénisse.